France Culture. Les nuits de France Culture. Alban Pénaranda, Antoine Dulster, Mathias Le Gargasson, Hassan M. Béchour, Laurence Millet. Nous sommes ensemble jusqu'à 7h du matin. Grande voix du XXe siècle. Pierre Mendès France, une sélection d'archives proposée par Alban Pénaranda.
Pour l'homme d'État qu'il fut et l'empreinte qu'il a laissée dans la vie politique de notre pays, consacrait une nuit à Pierre Mendès France, 40 ans tout juste après sa disparition, s'impose comme une évidence. Et puis, nous sommes à la radio et Mendès France, ce fut une voix qui, après celle de De Gaulle, a écrit l'histoire avec un micro. Les causeries radiophoniques hebdomadaires par lesquelles il s'adressait aux Français dans sa fonction de président du Conseil ont marqué les mémoires. Un mode de communication avec les citoyens qu'il avait d'ailleurs déjà adopté à la Libération quand il était ministre de l'économie nationale dans le gouvernement provisoire de la République présidé par le général de Gaulle. Écoutons-le s'adressant à la nation sur la RTF le 23 décembre 1944.
La semaine qui s'achève a rappelé assez sévèrement à la réalité ceux qui sont tentés de s'abandonner aux illusions et ceux aussi qui se laissent facilement aller à se plaindre en toute occasion, bonne ou mauvaise. La réalité, la dure réalité, c'est que la guerre n'est pas finie, et qu'elle se poursuivra sans doute encore pendant de longs mois. La réalité, la dure réalité, c'est que la France est un pays en guerre, un pays dont les moyens de communication ont été désorganisés par la guerre, dont les stocks ont été épuisés par la guerre, dont les ressources en main-d'œuvre sont terriblement réduites par la guerre et qui doit cependant continuer à fournir un grand effort pour la guerre. La contre-offensive allemande démontrerait à elle seule, s'il en était besoin, qu'il n'y a pas d'alternative, qu'il n'y a de possibilité pour personne de se désintéresser de la guerre. Les temps sont rigoureux et la fatigue est grande. Mais le devoir, mais l'instinct de conservation nationale et personnelle commande à chacun de prendre sa part de la défense du territoire, afin que chacun ait sa part de la victoire finale qui nous libérera de l'éternelle menace et délivrera nos prisonniers et nos déportés. À côté des sacrifices sanglants consentis à l'avant, les misères, les privations de l'arrière sont autant de sacrifices faits par chacun à la cause commune, c'est-à-dire à sa propre cause. On dira oui, mais pas de sacrifices inutiles. Et j'en suis bien d'accord. Mais lorsque notre ravitaillement quotidien souffre des réquisitions de transport effectuées pour les besoins militaires, chacun de nous doit maintenant comprendre qu'il y va de son propre salut. Il doit comprendre que ces transports militaires étaient et demeurent nécessaires pour éloigner de nous le spectre affreux d'une nouvelle invasion. Et ce ne sera pas divulgué un secret militaire de dire que les événements de ces derniers jours ne faciliteront pas une détente dans la crise des transports. J'avoue que dans ces conditions, il m'est difficile de m'intéresser à des questions que certains croient pouvoir agiter, comme celle de savoir si l'on mettra ou non de la pâtisserie en vente, ou si le métro fonctionnera à Paris la nuit du réveillon, ou encore s'il faut redouter les récriminations de ceux qui, vivant dans des appartements trop grands pour eux, alors que tant de gens ne savent tous loger, se verraient imposer une taxe pour chaque pièce vacante. Je ne me demande pas si l'on doit fabriquer de la confiserie ou des gâteaux, mais mon souci est de savoir comment on amènera dans les villes la farine nécessaire pour faire le pain et comment on trouvera le charbon qui permettra de traiter la betterave et d'en tirer le sucre. Je ne me demande pas s'il conviendra de transporter demain soir les réveillonneurs traditionnels, mais je me préoccupe de la façon de trouver le charbon et l'énergie qui permettront de faire travailler les usines où le labeur de nos ouvriers s'emploie à fabriquer le matériel de guerre ou à réparer les wagons, les locomotives, les camions, pour le ravitaillement de l'armée et de la population civile. Et je reste indifférent aux cris aériens de ceux qui sont logés trop au large, mais je songe aux sinistrés qui n'ont pas d'abri en plein hiver. Ai-je à m'excuser de la franchise de propos qui ne sont pas exactement de la nature que certains croient pouvoir échanger comme à l'ordinaire en cette saison? Non. Je crois qu'un grand peuple comme le nôtre veut qu'on lui parle avec franchise. Et j'ai vu sous mes yeux, du temps que mon unité était stationnée en Angleterre, un autre grand peuple réaliser de grandes choses parce qu'on lui parlait avec franchise. Il y a chez nous en France une immense majorité d'hommes et de femmes qui supportent avec un véritable héroïsme et en silence de dures privations en ce sixième hiver de guerre et qui souvent ont des raisons morales de souffrir, plus cruelles encore que les raisons matérielles. Le plus digne hommage qu'on puisse leur rendre, c'est de leur dire les choses comme elles sont, mais aussi d'ajouter, parce que c'est vrai, que tout de même, leur épreuve approche de sa fin. La victoire est certaine, mais si la France tout entière y apporte son plein concours, cette victoire sera plus vite atteinte, plus totale. Les lendemains en seront plus heureux et plus beaux. En cette nuit qui précède la nuit de Noël, nous avons le droit de formuler ce qui est plus qu'un vœu, ce qui est une certitude pour peu que la France le veuille, et d'évoquer l'avenir meilleur que nos efforts et nos sacrifices auront mérité.
Rigueur, pédagogie, foi en l'action, refus d'entretenir les illusions par des promesses intenables, tout Mendès France est peut-être bien résumé dans ce que nous venons d'entendre. À ces mots, il faut ajouter les mots république, patriotisme, courage, intégrité, intransigeance, qui reviennent immanquablement quand sont évoqués sa carrière et sa personne. Ces mots, nous les entendrons prononcer au cours de cette nuit, où s'exprimeront aussi des réserves et quelques franches critiques. Pourquoi cet homme, qui de juin 54 à février 55 n'a exercé le pouvoir que durant 7 mois et 17 jours, est-il devenu une figure quasi mythique de notre histoire politique ? Pourquoi demeure-t-il encore aujourd'hui une référence associant compétence et morale ? Les voix que nous entendrons dans les archives de cette nuit éclaireront ces interrogations. Des archives qui nous permettront surtout d'entendre longuement Pierre Mendès France lors de débats, d'entretiens et dans ses fameuses causeries radiophoniques alors qu'il était président du Conseil. Cela fait longtemps, bientôt 70 ans, que Pierre Mendès France a quitté l'hôtel Matignon. Son nom n'est sans doute pas près d'être oublié, mais il n'évoque peut-être plus grand-chose aux plus jeunes d'entre nous. Alors, comme de plus on ne se bouscule pas aux portes des bureaux de vote, ne manquons pas l'occasion de rappeler qui était Mendès France et l'idée qu'il se faisait de l'action politique.